Au bout de la science, dire que parfois ils ont des. Quand on voit la confiance absolue que certains scientifiques font dans la science pour régler tous les problèmes de l'humanité, y compris les problèmes qu'on a en ce moment avec le climat, c'est assez catastrophique.
Hein. C'est un scientifique qui parle.
Mais les sociétés animales, elles existent aussi.
Vous voulez bien prendre
le
micro et le faire circuler peut-être ensuite
pour.
Je disais
que les
sociétés. Oui,
c'est
bon,
ouais.
On entend. Bonne
année. Mmh. Oui, je disais que les sociétés animales et bien structurées existent aussi. Et quand on voit, par exemple, je prendrais une meute de loups, il y a toujours un chef. Quand vous prenez les abeilles, vous avez une reine, vous avez tout un tas. Seulement, elles sont capables de s'adapter et de suivre au cours de leur vie différents travaux qui me permettent de me poser beaucoup de questions.
Alors, on s'est posé beaucoup de questions, hein, puis il y a l'éthologie actuellement qui est en plein développement. Je pense même déjà à Aristote qui dit qu'il y a des sociétés animales, mais il dit l'homme est un animal politique à un plus haut degré que l'abeille. Et en fait, l'idée qu'on trouve dans toute l'histoire, c'est que dans toute la tradition, c'est qu'en fait, les sociétés animales, qu'on peut mettre entre guillemets, parce que société, ça suppose l'association et d'une certaine manière, une volonté. Et dans les sociétés animales, on parle de comportement instinctif, et avec l'idée que les sociétés animales, elles se déroulent toujours exactement de la même façon. Alors, Aristote lui dit, l'homme, lui, a la parole, et ayant la parole, il a l'idée du bien et du mal, et c'est pas seulement le sentiment de plaisir et de peine, et la survie qui le guide, mais c'est la recherche du bonheur moral. Donc il y aurait une différence spécifique, c'est-à-dire que l'homme est aussi un animal politique, c'est-à-dire qu'il vit en police et qu'il s'interroge sur la manière d'organiser la cité. Ceci dit, par rapport à ce que je viens de développer aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a pas de société humaine sans fait religieux, sans besoin religieux, à ce moment-là, ça pourrait aller dans le sens où justement nous sommes des animaux qui nous sommes adaptés à la vie d'une manière particulière, mais on retrouve des constantes finalement dans toutes les sociétés humaines. Donc elles sont peut-être pas si différentes que ça. Ceci dit, il y a aussi, je pense à Feuerbach justement, qui parle de l'essence, enfin qui dit que la religion justement se fonde sur une propriété purement humaine, hein, que seul l'homme a une religion, et il remet en question quelqu'un qui, à son époque, avait dit, et même avant, je crois que c'était Cuvier, qui disait que les éléphants avaient une religion, et il remet ça en question. Et en fait, il y aurait justement la différence caractéristique, ça serait justement la conscience en l'homme, hein, et le fait justement que l'homme soit conscient, et qu'il soit un être parlant et pensant, ça introduirait une différence qualitative, je dirais, entre lui et les autres animaux, hein, qui fait que construit un monde humain là où les animaux, il transforme la nature et produit un monde humain là où les autres animaux finalement restent complètement dans la nature. Bon, mais c'est une question énorme que ça pose, hein, Moi, j'aurais tendance à penser que, comme l'éthologie montre actuellement, que l'analyse des comportements des animaux nous renseigne beaucoup sur nous-mêmes, puisque nous sommes des animaux, mais d'ailleurs, quand on dit qu'on est un animal religieux, même un animal raisonnable, nous sommes des animaux. Mais qu'en même temps, le fait justement que, quand l'homme, la pensée et le langage soient développés, ça crée finalement une différence qualitative, c'est-à-dire que l'homme, d'une certaine manière, jusqu'à un certain point sort de la nature et crée une culture.
Oui, mais par ailleurs, je trouve que on attache une très très grosse importance dans le raisonnement, dans la raison, si vous voulez. Il me semble qu'on devrait avoir peut-être un peu de modestie, c'est-à-dire de savoir que la raison peut aussi avoir des limites, parce qu'on parlait de l'esthète tout à l'heure, il y a aussi l'intuition qui n'apparaît pas dans tout ce que vous dites. J'apprends pas. J'apprécie énormément, parce que j'apprends.
Oui, mais je
vois pas l'intuition.
Une critique, c'est.
Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure. L'homme projette sur le transcendant quelque chose qui est profondément humain. Mm-hmm. Oui, on peut dire que c'est humain.
Mais je ne dis pas ici qu'il s'agit de la raison. Je pense par exemple chez Feuerbach, on a cette idée que l'homme objective en Dieu ses propres qualités, il parle de la raison, de l'amour et de la volonté. Et en fait, il dit que les projetant en Dieu, ils s'en dessaisissent, c'est-à-dire que finalement, l'homme est misérable, il est imparfait, il est mauvais, etc. Et c'est finalement en Dieu que sont projetées finalement toutes ces qualités. Mais pour l'intuition, je ne voudrais pas que ça m'emmène trop loin, mais je dirais que l'intuition, elle ne nous ramène pas à un plan qui est étranger au domaine de la pensée et du langage. La thèse qu'on trouve quand même développée au XXe siècle, hein, c'est l'idée que le langage, ça n'est pas un instrument dont nous nous servons pour penser, mais que le langage est une structure et que nous sommes parlants, nous sommes des êtres parlants, et que le fait d'être parlant traverse finalement tout ce que nous sommes et toutes nos activités, tout ce que nous faisons, parce que dans la mesure où nous sommes des êtres parlants, justement, on produit du sens. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des. Il y a de la. Il y a du sens. Alors, ce sens, justement, il peut être. On peut faire l'effort de le ressaisir par la raison, en cherchant à nous comprendre. Mais, d'une certaine manière, on pourrait montrer qu'il y a aussi du sens qui nous échappe. Et ce sens, il est aussi. Il est aussi le produit justement de. Il est aussi le fait d'un être pensant et parlant. Hein? Donc, et ce sens, il nous dépasse hein, d'une certaine manière, que ce soit au niveau individuel, et ça Freud le montre avec tout son travail sur l'inconscient, par exemple le travail sur les rêves, hein, où on produit du sens à notre insu. Hein? Mais on dit justement, ça relève du langage et des réseaux de sens, en fait, qui nous constituent, qui nous traversent à notre insu. Et puis, on a aussi le sens qui nous dépasse au niveau collectif. C'est-à-dire que si l'histoire est la résultante des actions de tous les hommes, elle produit de fait une réalité qui est trans-individuelle et supra-individuelle. C'est-à-dire que les hommes ne maîtrisent pas individuellement leur histoire. Ils ne peuvent voir qu'après coup où ils allaient. Et finalement, ils ne peuvent pas savoir à l'avance quel sera le résultat, finalement, de leurs actions. Alors tout ça pour revenir à l'intuition. L'intuition, elle n'est pas étrangère à ce caractère que je souligne ici, d'être parlant et d'être pensant. Et bon, alors dans la philosophie, hein, à partir de Platon, hein, l'intuition, c'est justement ce qu'il s'agirait d'atteindre pour saisir la vérité d'un seul coup d'œil. Hein. Mais on ne peut atteindre cette intuition, ce niveau intuitif, que si on a gravi tous les échelons du discours. Donc en fait, l'intuition, ça serait. Il faudrait se servir du discours comme d'un moyen pour arriver finalement à voir quelque chose. Qu'on ne pourrait pas épuiser par les mots, mais qui serait le produit du discours lui-même, finalement.
Oui, parce que vous dites l'homme est un être parlant, mais étant donné qu'il est aussi un écoutant, il y a le problème du dialogue. dialogue qui permet une élévation de la pensée, parce que si on croit détenir, moi j'ai vu tout à l'heure Auguste Comte qui finalement arrivait à remplacer Dieu, quoi, il essayait de faire son catéchisme, comme vous disiez, il fallait appeler c'était lui Dieu en définitive. Et puis il s'est rendu compte qu'il fallait changer de cap parce qu'il remplaçait une religion par une autre religion.
C'est toujours ce qui se passe, c'est là l'ennui, c'est que chaque... Pardon. Non. L'ennui, c'est que chaque fois qu'on veut... Merci, je ne sais pas m'en servir.
Si vous parlez dedans, vous m'êtes prêts.
L'ennui, c'est que chaque fois qu'on veut supprimer une religion, automatiquement, on en met une autre à la place. C'est ça qui est ennuyeux.
Alors, là, Enfin, je pense par exemple à la façon dont Nietzsche traite cette question-là. Et où on a un petit peu le sentiment que tant qu'on est, dès l'instant qu'on est en collectivité et où justement on doit faire du commun, il doit y avoir du lien, finalement il y aurait la nécessité finalement de. On verrait ressurgir des croyances communes. Qui souderait finalement les individus. Ça voudrait dire que l'usage critique de la raison, d'une certaine manière, il ne peut jamais être qu'individuel, hein, et de fait, il est toujours isolé.
C'est là aussi.
Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas
communiquer
et se faire entendre, effectivement. Ça ne veut pas dire justement qu'on ne peut pas dialoguer et qu'il n'y a pas un partage possible. Mais d'une certaine manière, on pourrait constater que ce partage et cette communication, elle se fait toujours dans un temps privilégié, où on s'arrête de vivre. C'est, je pense à Hannah Arendt qui dit « quand je pense, je n'agis pas, quand j'agis, je ne pense pas ». On arrête de vivre, on arrête nos activités, et puis on réfléchit. Mais tant qu'on est pris dans la vie, tant qu'on est pris dans le mouvement, tant qu'on est pris dans l'action, justement on ne réfléchit pas. Et on est porté en fait par des croyances, des illusions, etc., qu'on entretient collectivement. Donc ça voudrait dire qu'il est absolument indispensable, il serait absolument indispensable finalement de faire ce pas de côté. Je pense une fois de plus, c'est un petit texte d'Anna Arendt que j'aime vraiment beaucoup, les considérations morales, où elle cite Heidegger qui dit « la pensée est toujours en retrait ». Elle est hors d'ordre. C'est-à-dire que justement, d'ailleurs, elle fait des ordres. Parce que justement, elle vient d'une certaine manière pointer ce qui relève du besoin vital et collectif. Et elle vient le déconstruire par son questionnement. C'est pour ça, dit-elle, que les Athéniens ont fait boire le cidre à Socrate. Parce qu'au lieu d'enseigner la vertu, le courage, la justice à ceux qui venaient écouter, il les invitait à se demander ce qu'est la vertu, ce qu'est le courage, ce qu'est la justice. Et puis en plus on n'en sort pas, parce que les dialogues de Socrate sont tous aporétiques, c'est-à-dire qu'ils terminent sur un embarras de la pensée, sur une impossibilité de répondre. Et que finalement, Socrate déconstruit ce qu'on doit construire justement pour faire de ces hommes à qui il s'adresse des citoyens. Donc il y aurait un mouvement finalement où la pensée des faits, hein, la pensée des faits, mais en défaisant et en déconstruisant, elle peut aussi se donner le moyen de construire autre chose. Et je pense que ça peut être... Justement, ce que Freud répond à son interlocuteur fictif dans l'avenir d'une illusion, c'est on va évidemment pas dire du jour au lendemain, ça y est, il n'y a plus de religion. Il dit, il y en a qui ont essayé de le faire, en Russie actuellement, ils essayent de le faire, dit Freud, on voit les problèmes que ça pose. Hein. Donc, il y a la question de dire, voilà, on va arrêter de croire du jour au lendemain, parce que de toute façon, à la limite, on ne peut pas arrêter de croire, mais pour autant, on peut faire ce travail de fourmi qui consiste à s'obstiner, à remonter une pente glissante finalement, hein, à remonter finalement la pente naturelle.
Celui qui doute se fait toujours influencer par celui qui, même s'il n'a pas la raison, même s'il n'a pas raison, est sûr de lui.
Ça dépend comment on entend doute. Parce qu'il y a le doute, il y a une forme de doute où on doute parce qu'on ne sait pas quoi croire. Et puis aussi une forme de doute qui est volontaire et qui consiste à remettre en question ce en quoi on croit et à le reconnaître comme croyance. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la religion est plus confortable parce qu'elle apporte davantage peut-être de réponses que de questions. Donc c'est... Et justement, je pensais par rapport à... Il y a une référence à laquelle dont je pensais parler, dont je ne me suis pas servie du tout. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé, c'est aussi un texte que j'aime beaucoup, qui est de Paul Ricoeur, qui s'intitule « Idéologie et utopie », qui est un cours que Ricoeur a donné dans les années 80 dans une université américaine. Et il commence par construire la notion d'idéologie à travers les grands textes qui l'ont inventé, quoi, parce que l'idéologie, c'est un terme qui remonte au XVIIIe siècle. C'est des études de Tracy qui font le mouvement des idéologues. Les idéologues réfléchissent sur les idées, la formation des idées. Donc on est plus au niveau de psychologie pratiquement, de réflexion sur la pensée. Et puis ensuite, le terme il sera pris de manière péjorative par Napoléon, qui va les traiter d'idéologues, c'est-à-dire de gens qui sont dans les nuages et qui ne s'occupent pas des choses concrètes. Et comment ? Oui. Et sur beaucoup de points, il paraît qu'il est récent. Et ensuite, le mot il est pris par Marx. Et l'idéologie allemande, le texte très connu de Marx, qui est sorti en 1844, il dit en fait les idées sont les représentations, les idées et les représentations sont le langage de la vie réelle, et elles constituent en fait un rapport imaginaire des hommes à leurs conditions d'existence. C'est-à-dire la vie réelle, c'est le système des besoins et des modes d'organisation économique mis en place pour les satisfaire, selon Marx. Et à partir de là, toutes les idées sont le reflet de la vie réelle. Et la religion fait partie justement de ces idées qui sont le reflet de la vie réelle. Donc l'idéologie, c'est un rapport imaginaire des hommes à leurs conditions d'existence. Et en fait, l'idéologie vient déformer la réalité, mais en même temps, elle légitime l'ordre existant. Alors, Ricoeur reprend toutes ces analyses et il ajoute à l'analyse marxiste une autre idée qui lui vient de la sociologie, il travaille sur les sociologues américains, et où on montre que l'idéologie a une fonction d'intégration. Donc, ce rapport imaginaire illusoire des hommes à leurs conditions d'existence, qui déforme de manière imaginaire les conditions d'existence, et qui en même temps est entretenue par la classe dominante puisque ça légitime l'ordre existant, elle a aussi un caractère indispensable puisqu'elle a une fonction d'intégration. On retrouve la fonction sociale ici, justement, dont on parlait à propos de la religion. Mais alors justement, ensuite, Ricoeur développe beaucoup plus rapidement, parce qu'il est arrivé à la fin de l'année, l'idée d'utopie. Et il montre justement que si on a besoin des idéologies, c'est-à-dire de croyances communes, hein, qui traversent les hommes à leur insu de manière inconsciente, hein, l'idéologie ici, ce n'est pas les idées propres à un certain parti politique, c'est les idées dominantes qui nous traversent et qui nous structurent comme sujet social, qu'on assimile, qu'on intériorise et qui nous structurent comme sujet social. Donc une société, elle a besoin d'idéologie. Et l'idée de Marx d'une société sans idéologie, elle est impossible, comme Althusser, qui lui-même est marxiste, le montre hein, dans ses écrits pour Marx. Donc on peut pas envisager une société sans idéologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer le rapport imaginaire des hommes à leurs conditions d'existence, c'est un rapport purement scientifique. Mais en même temps, il montre qu'on a besoin de l'utopie, qui est une autre illusion, mais qui justement permet de penser, qui permet de faire évoluer l'ordre existant. C'est-à-dire que l'idéologie, elle est toujours conservatrice. Hein, l'idéologie, elle vise, nous parlons de la religion, justement comme idéologie, et on est un exemple parfait, elle cherche à à garder des structures intactes et qui ne bougent pas. Donc l'idéologie, elle est sclérosante. Alors elle a effectivement une fonction, elle joue une fonction d'intégration pour le sujet, pour l'individu, mais elle est sclérosante. Et l'utopie, qui consiste justement à penser d'autres mondes possibles, elle est justement ouverture, elle est remise en question du conformisme, elle est remise en question de l'ordre établi, mais elle suppose, alors il dit finalement, aux yeux des idéologues, c'est-à-dire de ceux qui veulent maintenir l'ordre établi, toute idée nouvelle est utopique. Mais justement, l'utopie, elle consiste justement à... Elle est la seule force capable de faire bouger l'idéologie, de remettre en question l'idéologie. Donc, alors j'ai fait un petit tour un petit peu plus long, un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est justement cette idée que quand on est pris dans la vie sociale, on est pris justement dans l'idéologie, on est pris dans des illusions collectives, on est pris dans un rapport imaginaire à nos conditions d'existence, au niveau politique, religieux, social, mais ça n'empêche pas justement de faire cet effort finalement d'envisager les choses d'un autre point de vue, d'envisager d'autres perspectives possibles, et que c'est peut-être ça la seule manière de construire autre chose et donc de faire évoluer une société au lieu de l'abandonner justement à l'espérance en fait. Bon, je ne sais pas si ça...
Dans la religion révélée, il n'y a pas de recul possible. Mais dans les groupes que nous nous fabriquons pour la remplacer, une distanciation qui est possible quand même.
Oui, je voulais dire que dans la religion révélée, il n'y a aucun recul possible. Puisque si vous avez la grâce, je suppose que voilà, ça vous est donné et vous en faites ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas la mettre en question. Tandis que dans les groupes que nous fabriquons pour compenser notre absence de religiosité, si nous avons un recul sur ces groupes, c'est-à-dire que si en étant à l'intérieur de ces groupes, nous pouvons en analyser le fonctionnement et donc ne pas être totalement immergé dedans, on a une possibilité réelle d'agir dans ce cas.
Vous pensez aux groupes politiques, associations, etc.
Oui.
Oui, je crois en effet. Je crois en effet qu'il y a à ce moment-là une... Mais il y a aussi, parfois dans les groupes, une résistance très très forte à la remise en question, le questionnement. C'est ce qu'on appelle la langue de bois. Et où justement, il y a aussi souvent une résistance collective qui fait qu'on ne peut pas poser toujours toutes les questions qu'on voudrait poser.
C'était ça. Mais je pense aussi que peut-être, quand on rentre dans un groupe, pour bien y travailler, il faudrait peut-être avoir présent à l'esprit que toujours on peut en sortir. Que c'est ça.
Absolument.
Et que peut-être la clé, elle se trouve là, pour être efficace.
Justement, ça vient répondre à une question que ça m'a vraiment tourné dans la tête avant de venir. Et en même temps, justement, si on vient dire l'homme est un animal religieux, ça voudrait dire qu'on retrouverait finalement dans les comportements humains en tant que l'homme est un être social et un être moral, ce qui est finalement au fondement des religions elles-mêmes et qu'on retrouverait finalement à chaque fois. Mais ça ne veut pas dire que tout groupe, que toute association, ou que toute tentative soit identique. Et il me semble justement que dans la religion en tant que dans la religion en tant que suppose la foi en une parole révélée. Effectivement, il n'y a pas cette possibilité. Alors, vous dites de sortir, moi, je dis de faire le pas de côté. Ce qui s'appelle la dissidence. Hein, la dissidence, c'est le fait de s'asseoir à côté. et à partir de là, avoir une vision extérieure sur... la difficulté, c'est de sortir de soi pour se voir de la place de l'autre. Hein, c'est de ne pas être pris dans un fonctionnement au point qu'on ne puisse plus justement le reconnaître pour ce qu'il est finalement.
C'est pas une qualité de l'homme de faire ce que vous dites, pas du tout. Je dis, l'homme n'a pas propension à... Je dis, justement, l'homme n'est pas porté à faire ce que vous proposez, de se regarder dans l'autre. Il ne regarde pas l'autre, il se regarde lui surtout.
Je ne sais pas si c'est vrai. C'est surtout que c'est difficile. Disons que. Comment dire ? En plus, il y a différents degrés. Parce que, effectivement, le mouvement de s'arrêter, pour faire un pas de côté et voir. Chercher à comprendre le fonctionnement de l'extérieur, c'est pas absolument répandu. Mais enfin, ça concerne quand même beaucoup de monde. Enfin, je veux dire, ne serait-ce qu'au sens le plus étroit, déjà, toute une communauté scientifique, philosophique, qui cherche à comprendre l'homme, etc., et qui cherche à comprendre son propre fonctionnement. Je pense par exemple à Bourdieu, justement, qui parle de la sociologie, en montrant que le sociologue, il doit aussi avoir le regard critique sur lui-même. C'est la sociologie comme science critique, et comme science réflexive critique, toujours. Et on a ça aussi dans la psychanalyse. Cette idée que d'être capable de se mettre à la place de l'autre pour s'interroger soi-même, ça, je pense que c'est peut-être un comportement plus immédiat, beaucoup plus répandu qu'on ne le croit. Et à la limite, on peut dire que la religion, elle commande aussi de faire ça, et que les croyants le font aussi. Et que toute morale, finalement, d'une certaine manière ou d'une autre, le commande, puisque le contraire de ça, c'est l'égoïsme. Et que justement, l'égoïsme, il est unanimement condamné par les morales, qu'elles soient religieuses, rationnelles, qu'elles soient... quelle qu'elle soit, finalement. Hein, c'est cet égoïsme qui consiste justement à ne pas être capable de se mettre à la place de l'autre. Hein. Donc là, il y a deux choses différentes, en fait. Le fait de se mettre à la place de l'autre, pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre et de se voir soi-même à travers le regard de l'autre. Et puis il y a aussi l'attitude réflexive, qui consiste justement à chercher à comprendre dans quel type de fonctionnement on est pris. Et ça suppose un retour critique sur soi-même. C'est-à-dire un questionnement qui ne consiste pas simplement à aller critiquer la façon dont les autres fonctionnent, mais à se sentir soi-même pris dans les mêmes types de fonctionnement. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, en montrant que la pente est très très glissante. Et que finalement, la pensée critique, elle doit toujours être sur ses gardes, parce que finalement, il y a une pente glissante qui nous conduit, qui nous reconduit toujours à la croyance. Voilà. Un petit peu. Mais on peut faire des efforts pour la remonter, la pente, et ça me semble important de la faire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est presque une raison d'être.
Voilà. Mais ce n'est pas le commun des mortels de faire ça.
Alors c'est là que justement il y a cette illusion dont parle Freud, et qui est l'utopie des Lumières, que tous les hommes, ou ce que dit Marx, que tous les hommes aient un regard, cherchent à comprendre ce qu'ils sont et à comprendre leurs conditions d'existence. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je disais que... Par exemple, une attitude comme celle de Nietzsche, elle ne peut pas être collective. Mais c'est aussi pour ça, et d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est une figure romantique, Nietzsche. Il dit qu'il se sacrifie. C'est-à-dire qu'il est, celui qui vient penser dangereusement, c'est-à-dire qui vient poser des questions qui finalement le mettent face à, au caractère profondément tragique de l'existence. Et vraiment, il touche le fond, quoi. Et en cela, d'une certaine manière, il se sacrifie. Alors, il utilise le mot, un mot qui est christique. Parce que, en fait, ça rend service finalement aux hommes qui en est, qui se donnent la tâche d'essayer de comprendre un petit peu les fonctionnements dans lesquels on est pris, même quand ça ne fait pas plaisir de s'en rendre compte. Parce que généralement, ça ne fait pas vraiment plaisir. Je dis, c'est pour ça que Socrate, il se fait mettre à mort par les Athéniens. Il vient leur dire des choses qui ne vont pas dans le sens de leur désir.
C'est ce qui se passe à chaque fois.
La religion, elle répond. Ça, c'est une chose qu'on retrouve systématiquement chez Freud dans ses textes sur la religion, c'est que la religion, fondamentalement, elle vient répondre à des désirs profonds de l'homme. Donc, il y est très, très attaché.
J'ai un léger malaise. Je voudrais une sagesse.
Mais tant mieux. Je dis ça, c'est pas forcément un plaisir.
Je vais prendre un certain nombre de phrases qui ont été prononcées là, tout à l'heure. Il a été dit que la religion apportait des réponses, était sécurisante. Tout à l'heure, il a été dit aussi que les religions révélées, l'expression ne permettait pas d'avoir de recul. Freud dit que le croyant est infantile, névrosé. Marx dit que le croyant est dominé, soumis. Donc ma question est la suivante, est-ce que le croyant est un être qui pense?
Ça ne viendrait pas l'idée de dire non, mais le problème c'est qu'il y a différents niveaux de la pensée. Et je dirais que... dans l'histoire de la pensée au sens fort du terme, au sens strict du terme, elle a été entendue comme pensée critique.
Mais est-ce que le croyant aussi n'a pas une pensée critique? Ou est-ce qu'il est enfermé, dans un dogme et dans des croyances de quelque de son passe? C'est là où je... Voilà.
Alors, il y a une chose que j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois, je crois, depuis le début, et que j'ai eu l'occasion de lire encore, d'ailleurs, sous la plume de Feuerbach, sous celle de Freud, celle après Mpi, c'est que la religion, aujourd'hui au XXe, c'est un drôle de machin qui est complètement, qui s'est complètement, je dirais, adapté. Au monde moderne, il n'y a plus grand-chose à voir avec la religion des temps passés qu'à la limite, Feuerbach défend contre la religion moderne. Parce qu'il dit qu'au moins, il y avait une cohérence dans la religion passée. Parce que dans la religion moderne, on se met à trier entre les dogmes, mais finalement, ça fait un édifice qui ne ressemble plus à grand-chose. J'ai déjà dit un truc qui allait dans ce sens-là la dernière fois, mais décidément, c'est ce que je pense. Et bon, ben, si vous voulez venir faire un truc là pour dire le contraire, on vous y invite. La place est à prendre.
Ce qui est étonnant, c'est que vous voulez l'esprit critique pour les non-croyants, mais par contre, quand le croyant, lui, exerce son esprit critique, vous dites, ah, c'est n'importe quoi.
Attendez, je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Je dis simplement qu'il exerce son esprit critique dans des limites très très précises, parce que précisément ce qu'il ne veut pas, il y a quelque chose qu'il ne veut pas reconnaître, hein, c'est qu'il est dans la croyance. C'est qu'il est. Donc il y a là quelque chose. Par exemple, il y a tout un travail qui a été fait dans les sciences humaines et dans la philo au XXe, qui cherche à comprendre justement les sources du besoin religieux, des sentiments religieux. Mais à partir du moment où on se situe dans cette perspective-là, on se situe en dehors de la religion. Donc, quand on est dans la religion, on ne peut pas admettre toutes ces explications et ce travail sur la source de... C'est-à-dire que, si, parce que tout ce travail consiste à dire « Dieu n'existe pas, c'est une projection humaine ».
Alors, Dieu a créé images, et là, vous lui avez rendu, bande d'accord.
Non, 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 justement, justement, vous voyez, vous repartez dans une fermeture. Parce que, quand je vous dis, c'est l'homme qui, Dieu est une projection humaine, vous dites, oui, Dieu a créé l'homme à son image, et l'homme le lui a bien rendu. Mais moi, précisément, je pense qu'il n'y a pas de Dieu créateur, que Dieu n'a pas créé l'homme.
C'est une boutade.
Oui, mais enfin...
Non, mais c'est pas de moi, en plus.
Non, je sais, j'ai entendu.
Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez l'air de nier la possibilité aux croyants d'avoir des doutes et de réfléchir.
Alors, je ne dis pas qu'ils aient des doutes et qu'ils réfléchissent, mais à l'intérieur de leur croyance.
Non, non, attends, non, peut-être. Mais prenons par exemple Mère Teresa, dont on a dit pendant des années, elle avait douté mais profondément de l'existence même de Dieu. Bon, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas croyante.
Oui, on a ça aussi chez Pascal, et on a aussi ça chez Kierkegaard, et on a, je pense, ça chez des grands, enfin, je veux dire, effectivement, des grands croyants. C'est pas la...
Et que aussi, devant moi, c'est pas simplement
des... Et, oui, mais c'est pas la... C'est, je dirais que c'est pas la base du sentiment religieux. Hein, c'est... et surtout, surtout, moi, j'ai vraiment le sentiment que le questionnement, il reste toujours limité à un cadre dont on ne sort pas. Alors qu'il me semble justement que la pensée critique, elle doit pouvoir être capable justement de s'extraire d'un cadre pour, y compris d'essayer de comprendre le cadre dans lequel elle est elle-même prise comme pensée critique pour essayer de comprendre un petit peu les fonctionnements.
Ce que vous avez dit tout à l'heure de la pensée et de l'action est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on commence, on dit, on agit et on prend le temps du recul et de la réflexion. Et ce temps du recul et de la réflexion, cet esprit critique, il ne faut le dénier à personne.
Ah, mais je ne le dénie à personne, mais que tout le monde ait la possibilité d'exercer un esprit critique, jamais je n'aurais l'idée de le contredire. Qu'on ne le ressaisisse pas forcément toujours, ça c'est encore une autre chose, et qu'on ne le ressaisisse pas forcément correctement, ça en est encore une autre, et qu'on puisse l'utiliser jusqu'à un certain degré et qu'on n'aille pas au-delà, ça c'est encore une autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne réfléchissent pas et qui n'utilisent pas leur esprit critique. Mais il y a une façon aussi confortable d'user de son esprit critique pour se conforter dans ses propres convictions.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est confortable d'avoir plus de doutes que de certitudes et plus de questions que de réponses. Et c'est vrai, ça peut être vrai pour le croyant tout autant que pour quelqu'un d'autre. Personnellement, j'ai beaucoup plus de doutes que de certitudes et beaucoup plus de questions que de réponses. Ce que je ne crois pas toujours, parce qu'effectivement, je rencontre aussi des gens qui, finalement, ont beaucoup de certitudes.
Il y a des gens qui ont beaucoup de certitudes, je donne des armes pour faire battre, il y en a aussi, enfin, je veux dire, il y en a aussi parmi des gens qui ne sont pas croyants, mais justement, c'est aussi. Mais elles sont, à mon avis, à combattre de la même façon.
Moi, il me semble qu'actuellement, on a une chance inouïe, c'est qu'on peut avoir des croyances, mais on est libre de les avoir et de ne pas les avoir. Moi, je trouve que cette liberté qu'on a actuellement, moi, je suis un espérant plutôt que croyant. En fait, on me dit que si je suis espérant, c'est que je suis croyant, alors j'accepte. Mais moi, je suis ravi de vous écouter en tant que non-croyante, parce que je suis à la recherche. Ce n'est pas des réponses que nous avons absolument acceptées. Oui, tout à fait, mon collègue. Ce n'est pas des réponses qu'on se questionne continuellement. Et alors, vous m'avez blessé, moi. Je vais vous dire à propos de quelle phrase. Vous avez dit, devenir adulte, c'est abandonner la religion. Alors là, ça me fait la paix.
Alors là, je me fais l'écho de...
Ça, c'est votre point de vue.
Je me fais l'écho d'une thèse qui a été développée à travers tout le 19e siècle par des gens. Alors après, je pourrais vous dire que j'y adhère.
Nous sommes au milieu du ciel.
Parce que, franchement, bon, pour tout vous dire, hein, je respecte les croyants dans leurs croyances, mais pour moi, c'est quelque chose d'impensable qu'on puisse croire. C'est quelque chose qui est. Je ne peux pas imaginer.
Eh bien oui, mais
c'est ce que je...
Et moi, je suis surpris que vous ne soyez pas ouvert, justement, à des gens qui ne pensent pas comme vous.
Ben, si vous êtes ouvert à des gens qui ne pensent pas comme moi, je ne risquerai pas à venir parler en public. Il me semble que je m'expose
drôlement. Simplement, vous avez beaucoup cité M. Freud. Bon, pourtant, question de croyance et critique, dans ce qui est devenu le freudisme, donc une quasi-religion, c'est quand même pas mal par rapport à l'évolution.
Le freudisme va devenir une quasi-religion. Il y a, parmi les psychanalystes, il y a de tout. Il y a de tout, il y a beaucoup de divisions. Il y a... Donc, on ne peut pas dire que le freudisme est devenu une religion. Ben non, parce que généralement, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des phénomènes de groupe. Mais ce qu'on voit moins, c'est quand il y a des gens qui travaillent sérieusement et qui prennent le temps de se poser vraiment les questions. Et on ne peut pas comme ça dire que la psychanalyse, c'est une croyance. Ou c'est devenu une croyance.
Pendant un moment, il y avait quand même une certaine conception de ce travail-là. Une quasi-église avec cette
apparagie. Ça ne peut pas conduire à décrédibiliser le travail de Freud. C'est-à-dire, je peux citer Freud, même s'il y a des psychanalystes qui ont eu tendance à reproduire des églises. Hein, c'est-à-dire, il y a effectivement des cercles psychanalytiques, on a vraiment l'impression qu'il y a le grand gourou qui a donné la parole. On ne va pas, à partir de là, décrédibiliser le travail de Freud, ne pas pouvoir citer Freud, et puis et décrédibiliser la psychanalyse en général. Justement, c'est un petit peu ce que j'essayais de montrer tout à l'heure, c'est que finalement, dès qu'on a un groupe, on a une tendance, on a une pente glissante, une tendance à fabriquer, à faire des églises. Et je pense aussi du syndicalisme, je pense aussi de toute association aussi, des syndicats aussi. Il y a un credo, il y a un discours officiel, il y a une langue de bois, il y a des croyances communes, etc. Mais donc, alors, quand je dis ça sur la religion, il y a les gens qui croient qu'ils se sentent attaqués. Ensuite, quand je dis ça sur les syndicats, il y a des gens qui sont syndiqués qui se sentent attaqués. Je pourrais dire ça aussi de la philosophie. Hein. Y a aussi des grandes messes. Y a aussi la grande messe philosophique. Y a aussi la science. Je veux dire, dès qu'on n'y fait pas, dès qu'on n'y prend pas garde, on fait la messe. C'est tout. Et ça, on le fait.
Le terme de messe, ça ne va pas bien ça.
Pardon ?
Tu dis maintenant, tu utilises ce terme de messe. C'est tout. Or, la messe, c'est quand même quelque chose qui a. C'est le centre de la vie religieuse. Hein.
Oui, mais justement, si je montre que. J'essaie de montrer que l'homme est un animal religieux et que partout où il passe, il fait la messe. Donc, là, on est dans cette situation où je dis que la religion, c'est un produit de l'homme. C'est une création humaine. Et qui, d'ailleurs, a aussi fait de très grandes choses. Hein. Si on pense ne serait-ce qu'à. Tout ce qui a pu se faire dans le cadre de la théologie, commencer par chez les Arabes et puis ensuite dans la théologie chrétienne, si on voit tous les arts qui se sont développés dans la mesure précisément où il y a justement peut-être une dimension sacrée ou spirituelle dans l'art, qui fait que la religion justement s'en est servie pour élever l'âme des fidèles, etc. Quand on voit les cathédrales, quand on voit la musique, quand on voit la peinture, quand on voit... C'est extraordinaire. Donc, je ne suis pas en train de dire que la religion n'a rien fait, parce que, justement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de société sans religion, et que finalement, il y a une force civilisatrice de ce lien. Mais, en même temps, ce lien, il a aussi tendance à mon sens, à scléroser les esprits, là où, justement, seule la pensée critique peut permettre des ouvertures, des échappées. Et une pensée critique, c'est quelque chose qui est d'une exigence épouvantable. Voilà. Et on ne se fait pas plaisir, et c'est d'une exigence terrible, parce qu'on peut se mettre à raconter n'importe quoi sur n'importe quoi, mais si on veut vraiment se mettre à réfléchir, c'est une exigence terrible. Voilà. Et quand vis-à-vis de soi, on cherche justement à se poser ces questions-là, parce que finalement, on se surprend souvent soi-même à s'installer confortablement dans des idées. Et justement, la pensée critique, elle suppose qu'on vient toujours se saper le fondement. Moi, c'est pour ça qu'un philosophe comme Nietzsche, je le trouve extraordinaire, parce qu'il réalise ça de manière permanente et sans relâche, quoi. Donc, on peut jamais s'installer dans ce qu'il dit, parce qu'il nous dégage tout le temps, finalement, de la position dans laquelle on croit pouvoir enfin s'installer.
Simplement, c'est pour remercier de votre intervention, c'est la qualité de votre intervention et de votre réflexion qui a libéré dans nos paroles. Moi, c'est à souligner quand même, il n'y a aucune critique derrière.
Par des forces, par des pulsions, par des désirs que je ne maîtrise pas, qui d'ailleurs nous traverse aussi collectivement, et que c'est justement toute cette part d'inconnu de nous-mêmes qui est source de toutes nos croyances. Et qui nous angoisse nous-mêmes.
Les Grecs anciens et en Orient, ils pensent que c'est la colère qui nous traverse, la colère qui traverse la nature avec l'orage. Et c'est pourquoi ce serait un inconscient humain, pourquoi ce ne serait pas la colère qui est dans la nature.
En ce moment-là, je crois que...
Et,
on va tourner en rond.